Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocale et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Mes invités sont les LJ ou LEJ, l'abréviation des premières lettres des prénoms de Lucie, Elisa et Juliette, les chanteuses et multi-instrumentistes du groupe qui me font l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. En seulement 5 années de carrière, elles ont enflammé les salles et les festivals, remporté la révélation scène des Victoires de la musique en 2017. Dans cette première partie d'épisode, on parle de leur début, de l'évolution de leur voix, du classique à la musique actuelle. Elles nous donnent leurs conseils pour prendre soin de la voix. Gérer le track, comment ont-elles vécu leur succès ? On écoutera Pas peur, leur troisième disque qui est sorti il y a quelques mois. Je vous laisse découvrir ma conversation avec les LJ. Bonjour les LJ.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Merci d'avoir accepté. Je suis ravie que vous soyez sur le podcast.
Ah bon, on est très contente d'être là.
Avec plaisir.
J'aimerais que vous me parliez de vos débuts. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert ensemble ?
Le tout premier, je pense que c'était dans un bar à Saint-Denis. On était toutes les trois, il y avait même pas beaucoup de violoncelle, il y avait surtout de la guitare. Des reprises.
Vous aviez quel âge ?
Exactement.
On a retrouvé une vidéo de ce concert et on était assez choqués de l'évolution de nos voix. Je crois qu'on avait, 15 ans, 16 ans ? 16 ans.
Ouais, on était quand même assez, ouais. Voilà,
je crois qu'on avait 16 ans parce que c'était l'époque table ronde et tout.
Est-ce que c'est votre façon de chanter les unes avec les autres qui est différente ou bien ce sont vos voix ?
Bah, en fait, elles sont pas forcément différentes, mais on a appris à chanter avec des micros, on a appris à se canaliser. Avant, c'était vraiment, on chantait fort pour chanter fort, quoi. On est d'accord. C'est ça, en fait. Et alors qu'on s'écoutait moins, peut-être, on était moins, on était moins à l'écoute les unes des autres, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, d'apprendre à chanter dans un micro.
Non.
Oui.
Ouais. Après, je sais que personnellement, ma voix, elle a changé pour de vrai. Enfin, ça a changé ma voix de chanter que de la variété. J'avais un timbre beaucoup plus classique avant.
Chantais beaucoup en voix de tête avant,
ouais. J'étais soprane aujourd'hui. Je suis pas du tout soprane, mais alors pas du tout. Et je chantais beaucoup. J'avais un timbre super classique, quoi.
Oui, justement, je voulais te poser la question, parce que moi, ça, je le vois avec mes élèves qui font aussi du lyrique, et moi, je l'ai vécu aussi. Est-ce que t'as cherché volontairement à l'estomper, ou ça s'est fait au fur et à mesure des reprises, dans un autre style ?
Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure parce que c'est pas du tout... En fait, chanter dans un micro et chanter debout derrière une partition avec un orchestre ou avec un chœur, c'est vraiment pas la même chose. Il y a un soutien qui est différent. D'ailleurs, merci le classique parce que sauter sur scène en chantant, je pense qu'on aurait été incapable de le faire si on n'avait pas fait de classique avant, pour le coup. Ça apprend vraiment, vraiment ce qu'il faut. Ça s'est fait au fur et à mesure. Après, il y a un passage un peu compliqué, c'est qu'au début, ça m'a pas mal cassé la voix.
Ah, au niveau du passage sur le médium aigu ?
Ouais, non, pas forcément ça. J'ai eu la chance de jamais avoir un passage marqué. Mon passage, il était, par exemple, Summer 2015, le fa dièse, fa ou fa dièse, je sais plus. Et Juliette qui sait. Je le fais en voix de poitrine. Alors que le passage aigu, il était très, 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 très loin. J'allais très, très aigu et je passais en voix de tête, vers le fa sol. Aujourd'hui, un fa en voix de poitrine, c'est même pas la peine d'y penser. C'est pas possible. Je suis obligée de passer en voix de tête. Mais, même si j'avais pas un passage marqué du tout, j'ai toujours eu des médiums assez puissants. Pas de grave du tout. Ouais, ça se ressent chez pas mal de chanteurs classiques où quand je vois l'évolution, par exemple, de filles avec qui on était à la maîtrise, qui sont aujourd'hui chanteuses lyriques et qui ont des voix absolument magnifiques, qui ont un timbre très très classique, qui peuvent plus chanter de variété aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. La technique classique est une excellente méthode pour apprendre les bases du chant, mais quand on a chanté uniquement du lyrique pendant des années, ça s'entend sur la musique actuelle, ou alors il faut vraiment avoir continué de chanter autant l'un que l'autre. Il y a l'exemple de la soprano Nathalie Dessay. Elle a eu une immense carrière à l'opéra et c'est une des très rares sopranos qui a vraiment réussi sa transition en changeant de répertoire, mais elle a fait vraiment une démarche dans ce sens-là avec un coach vocal en musique actuelle pour se défaire des automatismes du chant lyrique.
Oui, voilà, c'est ça. Alors à l'inverse, je peux plus chanter de classique aujourd'hui. J'ai dû en chanter un ou deux morceaux il y a pas très longtemps à côté de ma cousine qui est une chanteuse lyrique coloratour qui est incroyable, hein, vraiment j'admire. Je me sentais toute petite quoi, j'étais là mais comment elle fait pour avoir un coffre pareil alors que souvent j'avais entendu on m'a souvent dit mais t'es toute petite comment tu fais pour chanter aussi fort. Ah là je me suis rendu compte que vraiment je chantais pas fort du tout en fait, enfin à côté de quelqu'un qui a vraiment développé un timbre classique, un coffre comme ça. Et à l'inverse, quand il a fallu chanter une chanson actuelle, elle se sentait comme moi je pouvais me sentir sur le morceau classique. Alors il y a des réflexes qui reviennent, moi j'avais des réflexes de classique qui revenaient mais qui étaient jamais aussi poussés que les siens, et elle avait des réflexes de musique actuelle qui revenaient avant qu'elle travaille uniquement le classique tout le temps, mais qui encore une fois n'étaient pas aussi poussés que les réflexes de musique actuelle que j'avais. C'est vraiment deux enseignements différents. Et je me souviens qu'avec Lucie, quand on était à la maîtrise, en fait heureusement qu'on a continué à chanter des trucs actuels toutes les deux ensemble et avec Juliette, parce que ça nous a permis de pas être cloisonnés dans une seule chose en fait. Et puis surtout, moi, je me souviens que la première fois qu'on est monté sur scène, en tant que LEJ, toutes les trois, je me suis dit, mais attends, dans la musique actuelle, on peut parler aux gens, c'est-à-dire que si je crie, les gens, ils crient, si je lève la main, les gens, ils lèvent la main, mais c'est absolument génial. Je veux complètement faire ça, en fait. C'est pas du tout le même rapport, en fait. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu moins compétitif, même si ça l'est, c'est quand même moins compétitif que la musique classique. Les chanteurs et musiciens classiques, ils sont tous tellement excellents, en fait, que c'est difficile de se faire une place. En musique actuelle, on peut faire tout et n'importe quoi, donc il y a de la place pour tout le monde.
J'ai l'impression qu'en classique, c'est tu joues aussi pour, enfin, tu concours pour des rôles ou tu vois, par exemple dans des orchestres, bah il y a pas 36 000 places et quand les personnes elles sont là, bah elles restent là en général. Donc en fait, ouais, les places sont assez restreintes et c'est vrai qu'en musique actuelle, bah en fait tu peux tout faire et tu peux changer de groupe et puis tu peux t'arrêter, puis tu peux reprendre et puis en fait tu fais un peu ce que tu veux. C'est vrai que c'est beaucoup plus libre. Après c'est bien de mêler les deux et nous en vrai c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est avec toute notre formation classique et toute notre éducation classique, lyrique, de mêler ça à la musique actuelle, et parce qu'on est aussi sensible d'écouter de la musique lyrique ou classique, enfin, dans toute cette époque-là, que de la musique contemporaine, que de la musique électro. Enfin, c'est aussi ça la passion de la musique, c'est de reconnaître là où est le beau et que tout est intéressant à apprendre, à connaître. Donc après, on n'est pas du tout en train de nier, de renier notre part de musique classique. Et
ah non, pas du tout. C'est grâce à ça qu'on en est là. Hein.
Jette-moi dans l'océan, j'irai nourrir les poissons. Faut bien mourir de toute façon. Si je finis sur l'autre rive, je t'ai entré avec ma chanson. Cette idée m'enivre, réduis-moi jusqu'au silence. Balance-moi en prison, ou prive-moi d'horizon. Si l'innocence est fautive, je suis coupable de raison.
Donne au diable mon cœur, encore. Je le ferai chanter en chœur, encore. Sous un tapis de fleurs, mon corps, pour avancer des heures, encore. Brûle-moi comme un livre, mes mots tu liras vive. Si la mort me délivre, je serai encore plus libre.
Éteindre comme la lumière, vas-y appuie sur le bouton. Quand enfin se rallume les étincelles d'hier, soldat sous une pluie de plomb, la fierté pour seule munition. Jamais aucun de tes airs ne fera taire cette chanson.
Donne au diable mon cœur, encore. Je le ferai chanter en cœur, encore. Sous un tapis de fleurs, mon corps, pour avancer des heures. Brûle-moi comme un livre, mes mots tu liras vive. Si la mort me délivre, je serai encore plus libre.
Encore.
je le ferai chanter encore, encore, sous un tapis de fleurs, encore, encore, encore.
Et en changeant de répertoire, comment vos voix se sont-elles adaptées? Comment ont-elles continué de se développer?
Le fait de chanter de la musique actuelle, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup, beaucoup développer les médiums et les graves. Je chante beaucoup plus grave qu'avant. Après, comme je disais...
Donc les tonalités des morceaux ont changé avec le temps. Ouais.
Mais même parfois, quand on écoute nos morceaux, nous-mêmes, souvent avec Lucie, on se dit « mais c'est grave en fait !» Donc voilà, mais ouais, c'est au fur et à mesure, c'est pas volontairement. Et justement, en fait, il y a certains défauts qui se sont faits dans ma voix, parce que c'est une technique que je maîtrisais pas, etc., qu'on n'a pas pris de cours de musique actuelle,
c'est
en fait.
C'est le chien, là, qui pleure.
Mais en fait, on apprend à en jouer, au final. Pardon, je suis désolée, il y a ma chienne qui fait des caprices, excusez-moi. Ouais, elle vient de couiner.
Elle veut chanter.
Je suis morte.
Ah non, c'est un chien qui chante. C'est véridique. J'ai des preuves.
Eh, mais les chiens des chanteuses, toujours, ils chantent. Ouais, ouais. Les miens aussi, ils faisaient ça.
Ah bah, pourtant, la première fois qu'elle m'a entendu chanter, elle m'a aboyé dessus. Genre, tais-toi. Là, c'est bon.
Oh là là, trop drôle.
Quand tu mets l'album, bizarrement, elle chante dessus. Mais non, mais ta prof, elle me regarde, elle chante, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais vraiment, prenez des chiens, c'est plein d'amour, ça, mais vraiment, elle ne fait que chanter, là. Elle est avec son jouet, elle me regarde. Ensuite, elle le pose, elle vient, elle se pose sur ma jambe. Alors qu'elle vient de sortir, elle vient de jouer. Enfin, tout va bien, mais...
Bon, mais ça fait un quatrième membre pour le podcast.
Vous l'avez dans ce podcast, Trixie, qui va vous expliquer comment chanter comme un chien. Voilà. Et elle chante juste. C'est impressionnant. Vraiment.
N'importe quoi.
Et quand vous avez regardé cette vidéo de votre premier concert, au niveau du scénique, est-ce que vous aviez déjà cette aisance ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure?
Scéniquement, ça n'avait ni queue ni tête, je pense.
Franchement, non, il n'y avait pas du tout de présence scénique. Enfin, on savait absolument pas quoi faire, mais absolument pas. Enfin, on se prenait même pas la tête, en fait. Je crois que c'était juste au niveau de la musique. Déjà, on essayait d'avoir des morceaux... appris jusqu'au bout avec les bonnes paroles.
Ouais.
Parce qu'on chantait beaucoup en anglais aussi, là, c'était compliqué d'avoir les bonnes paroles en anglais à chaque fois. Et non, là, quand on voit, ce bar à Saint-Denis où on avait l'habitude de prendre des cafés et de réviser nos
bacs, après, on était quand même, on n'était pas c'était... non plus hyper coincé. Enfin, en tout cas, on avait quand même un truc un peu, on était à l'aise, mais on avait les codes du classique. On se regardait beaucoup. Elisa, elle battait la mesure pour qu'on soit bien ensemble. Voilà, donc il y avait quand même des codes ancrés, mais ouais, vas-y.
Oh là là, mon Dieu, je battais la mesure.
C'est ce que j'allais dire.
Ah hein. Ouais.
L'anecdote... l'anecdote d'Elisa, vraiment, qui, pour le coup, ça se voyait vraiment Dieu. Qu'elle sortait du classique, c'est que... On répétait et c'est vrai que souvent on change de tempo, on ralentissait, on accélérait et du coup Elisa au début commençait à battre la mesure vraiment pour qu'on soit toutes les trois calées mais comme en classique en fait. Alors qu'on chantait de la musique actuelle, donc il y a des vidéos où elle bat la mesure, on se dit mais what,
c'est énorme. N'importe quoi.
Et donc ça c'est un des trucs qui a quand même complètement disparu, ce qui est super.
Même le fait d'être perfectionniste surtout sur la justesse, parce qu'en classique on saute pas, on bouge pas, on parle pas aux gens, on n'est pas en train de courir pendant qu'on fait un morceau, on fait que chanter. Là aujourd'hui on fait d'autres instruments en même temps, on fait des percus, on fait du piano, du saxo, de la basse, de la guitare, on fait beaucoup de choses en même temps et surtout c'est du spectacle vivant. Au tout début, vraiment moi j'étais un tyran avec les filles, c'est que la moindre fausse note je les regardais mais tellement mal. Genre, vous êtes sérieuse, c'est pas maîtrisé, c'est pas juste. Alors qu'en fait, on s'en fout, c'est du spectacle vivant. Et c'est jusqu'au jour où Juliette m'a dit, Elisa, on s'en fout, c'est du spectacle vivant. Ça peut pas être hyper juste à chaque fois. Bon, il y a des fois où on fait n'importe quoi, on s'en veut. Enfin, on chante très faux, on joue très faux, on s'en veut. Les fois où il y a une note un peu au-dessus, une note un peu en dessous, c'est pas grave parce que de toute façon, on va bouger en même temps. Quand on fait des morceaux qui sont soit a cappella, soit juste violoncelle voix, on bouge en même temps en fait. Si Lucie et moi on va se mettre à tirer vers le haut, Juliette elle va nous suivre. Si Juliette tire vers le bas avec Lucie, on va la suivre. Enfin c'est en fait on a appris à chanter.
Non, mais c'est ça, c'est exactement ça.
Faux toutes les trois en même temps. Donc au final ça s'entend pas que c'est faux. Et ça au début moi j'avais énormément de mal. J'avais énormément de mal, j'étais là, mais attendez, là on est au moins un quart de ton trop haut, alors qu'aujourd'hui s'il y a un quart de ton trop haut, on se dit, oups, bon bah désolé, mais les gens se rendent pas compte, et même s'il y a des musiciens dans la salle, c'est bon t'as fini de queener, voilà, même s'il y a des musiciens dans la salle, ils s'en moquent aussi, parce que c'est du spectacle vivant quoi, et on interagit avec les gens.
Oui. Ouais, c'est pas comme à l'opéra. Moi, j'ai déjà vu des spectateurs qui avaient les partitions et qui regardaient les partitions pendant l'opéra. Je me dis, c'est pas possible.
Mais non, ah, c'est énorme.
Heureusement que les gens n'ont pas nos partitions. Ils verraient bien qu'on improvise complètement.
Vous avez une énergie incroyable sur scène. Et est-ce que vous vous branchez quand vous êtes sur scène sur l'énergie du public, ou est-ce que vous voulez l'amener vous dans votre humeur du jour, ou vous vous connectez plutôt les unes aux autres?
Ça dépend des fois, non? Alors il y a des fois où on peut être hyper connectés toutes les trois et finalement le public pas tant que ça. Mais le fait qu'on soit connectés toutes les trois, ça entraîne quelque chose, une certaine énergie. Parfois, nous, on est complètement molle et en fait, c'est le public qui nous donne l'énergie. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est hyper aléatoire, mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est un échange. Et les énergies, en général, elles vont ensemble, elles se tirent les deux vers le haut, quoi. Et, ou vers le bas, toutes les deux, en vrai.
Non, mais j'allais plus soyer en disant que c'est vrai que on a été souvent surprises avant un concert, enfin sur des concerts où nous on était épuisés. Souvent c'était le 3e ou 4e concert d'une même série, parce que c'est beaucoup en vrai, 3 ou 4 concerts de suite quand on reste quand même perfectionniste, donc on se donne vraiment à 2000% à chaque fois, même quand on est fatigué ou malade et qu'on se dit bon on s'économise, c'est impossible, ça n'existe pas, on s'économise jamais. Les fois où on est vraiment épuisé avant, on s'est souvent retrouvé surprise d'avoir un public au taquet et du coup de tout donner
en fait,
sans même se rendre compte.
C'est que plus t'es généreux avec le public et plus il te le rend, et en fait c'est comme ça que l'énergie monte et qu'elle se manifeste aussi de plus en plus en fait. Si on reçoit, forcément on donne et c'est un cercle vertueux quoi.
Ouais, exactement. Non, j'allais dire qu'il y a des concerts à l'inverse où ça nous est arrivé. C'est plus sur des festivals, parce que en festival, c'est pas acquis, les gens sont pas là pour nous. On est déjà été sur des programmations où le style musical qu'on avait n'avait rien à voir avec la tête d'affiche, par exemple. Et où là, fallait ramer de A à Z pour maintenir l'énergie. Mais quand on sort de scène, en sachant qu'on a vraiment ramé, qu'on a tout donné, qu'on a été à fond, et que les gens sont restés, c'est bon, on sait qu'on a fait le job et que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, parce que faut aussi apprendre que parfois les gens ils ont pas envie d'être autant à fond que toi, parfois ils attendent le mec d'après, ou ils étaient là pour avant mais du coup ils restent pour écouter sans forcément pour s'ambiancer. C'est une vraie bataille, mais encore une fois c'est l'avantage d'être trois, et on le ressent pas à chaque fois pareil, du coup on arrive à se pousser les unes et les autres vers le haut.
C'est ça en fait le piège, c'est quand le public est vraiment pas au taquet. Mais ça c'est arrivé vraiment, c'était quand même des moments rares, et en général comme elle disait Elisa, c'est notre style ne correspondait pas au public, ou que la tête d'affiche n'avait aucun rapport, genre on a joué avant Johnny Hallyday par exemple.
Ah oui, rien à voir.
C'est bizarre. Ouais. Et là
c'était très compliqué
et c'est vrai que là on se dit bon bah en fait on a deux choix, c'est soit on laisse tomber et on donne rien, mais en vrai tu te dis toujours que tu faut donner, pour même s'il y a 3 personnes sur 5000 qui sont contentes, bah en fait faut penser à ces personnes là quoi. Et le piège justement c'est pas de pas tomber dans le truc bon bah de toute façon l'ambiance elle est pourrave, bon bah on va rien donner quoi. Comme elle dit Elisa, c'est bien comme ça d'être à 3, parce que même si on est déprimé de voir que le public n'est pas du tout réceptif, au moins on se regarde toutes les 3, et puis en général c'est drôle, enfin on se regarde et on rigole et on se dit bah, c'est juste un mauvais moment à passer, et puis on va quand même tout donner quoi.
Ouais, ça fait des jolies anecdotes en général. Ouais.
Je peux le regarder danser, je peux l'écouter penser, parler seul. Et comme l'accord est parfait, je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures. Je sais que t'en vois pas qu'une. Si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne crée pas de banale rancune. Et qu'on passe un bout de vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser, passe la moitié du temps à penser qu'on va tomber et recommencer. Toujours tous les deux. L'un de nous devra partir, mais quand on parle des heures, j'y pense même plus. A-t-on besoin de se mentir, de vouloir prévoir l'inconnu? Peut-être que ça finira bien plus mal que ce qu'on imaginait. Et toi, qu'est-ce que tu diras si à la fin du jeu on finit tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser, à penser qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux.
Comment prenez-vous soin de vos voix ?
Pour la voix, la clé, c'est de dormir beaucoup. Hein. En vrai, ouais. Enfin, quand on est tous les jours sur scène, nous, je me souviens qu'au début de la tournée, on avait super peur. On se disait, enfin, surtout Elisa et moi, ouais, forcément, on se disait, putain, notre voix, elle va jamais tenir et tout. Là, on fait des 4 dates d'affilée où c'est des, on fait 2 heures de concert par soir et tout. Et on avait peur. Et en fait, finalement, bon, déjà, on prend le rythme vite. Finalement, en fait. Quand on a plein de concerts.
Ah, mais c'est quand on a plus de concerts.
En fait, on a jamais la voix cassée, t'as remarqué, Lisa? Voilà, quand on chante pas pendant super longtemps, en fait, ouais, voilà. Bah, ça, c'est un muscle, quoi. Donc, en fait, du coup, quand tu le travailles pas, tu le perds un peu, quoi. Et après, ça revient au fur et à mesure. Mais après, ouais, pour la voix, faut vraiment dormir. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je pense qu'il faut au moins dormir. Bon, après, ça dépend des gens, hein, mais moi, je sais que pour moi, faut au moins que je dorme 8 heures, sinon, c'est mort. Et, en fait, c'est juste la voix et boire beaucoup, beaucoup d'eau, quoi. Après, tous les trucs genre miel, thym et tout. C'est bien, hein. Nous on se faisait des petits grogs avant de monter sur scène, des petits trucs, mais en soi c'est vraiment les clés, c'est le sommeil et, ouais. Et l'eau et pas trop de stress, quoi. Pas obligé en tout cas de sortir avec une écharpe toutes les 2 secondes, quoi. Ça,
c'est ouais, moi c'est ce que je faisais.
Oui, toi c'est ce que tu fais, mais ouais. C'est psychologique plus
c'est complètement psycho. C'est ça aussi, faut pas avoir peur des rituels qui sont complètement placebo et qui sont complètement psycho. Si ça fait du bien de toute façon à l'esprit, ça fera du bien au corps, ça c'est sûr et certain. Mais si y en a qui écoutent et qui un jour vont dans un tourbus, bouchez les aérations dans vos couchettes.
Oui,
parce que ça c'est mortel, ça. Le lendemain, c'est voix cassée. Si vous prenez l'avion, si vous prenez le train, ah ouais, ayez toujours un petit foulard, même s'il fait 40 degrés. Hein. Juste un petit foulard parce que c'est vraiment mortel pour les cordes vocales.
Faut savoir qu'Elisa, parfois, elle est en suite,
à faire 10 heures d'avion.
Sur la
ah non, mais vraiment.
Après, elle est. Faut qu'il soit.
Moi, je suis une frileuse. Bah oui. Mais vous souvenez-vous, cette fois, on a fait 10 heures d'avion, on a atterri, fallait faire un petit concert et on était là genre, ma clim, c'est impossible,
oui, au final,
impossible.
Au final,
c'est le piège.
Ah bah ouais.
Ouais. Vraiment.
Ah la clim, mais c'est horrible. Ah non, mais ça ne devrait pas exister.
Non, c'est horrible, c'est nul. Mais après, t'es malade, t'es toujours malade après.
Ou l'avion, on est toujours, tout le monde est, je sais pas comment ils font aux États-Unis, ouais. En Australie et tout.
Ouais. Oh, horrible.
Vous avez été révélé au public en 2015 avec des reprises. Vous trouviez que les chansons d'été se ressemblaient beaucoup. Vous vous êtes amusé à les faire tourner sur les mêmes accords avec vos arrangements et ça a fait un grand buzz sur Internet. La même année, les concerts, les dates se sont enchaînées à toute allure. Vous étiez sur la scène de l'Olympia, vous avez été nommé au Energy Music Awards. Vous avez sorti votre premier album. Ça a dû être incroyable, mais comment avez-vous vécu toute cette médiatisation soudaine? Et surtout, comment gère-t-on un succès aussi fulgurant pour arriver à tenir la cadence comme vous l'avez fait ces 5 dernières années?
Je crois qu'on l'a pas trop géré, hein.
Non.
En vrai, avec le recul, on n'a pas su le gérer, mais en même temps, je pense que c'est quasiment impossible de savoir gérer ça quand t'as 20 ans et que d'un coup, il y a ta tête partout à la télé, que même quand tu rentres chez toi, ta mère te regarde la télé et te dit, je comprends pas, t'étais dans la télé il y a 5 minutes, je comprends pas là ce qui se passe avec la vie de ma fille. Toi non plus, tu comprends rien.
Ouais.
Mais
non, mais j'allais dire que justement là où même si on s'en rendait pas compte et même si là avec le recul, on se dit waouh, on a fait vraiment énormément de trucs sur 1 an et demi, on avait eu 3 jours off je crois, donc c'est vraiment qu'on était on faisait ça vraiment, enfin on n'avait pas de dimanche, on n'avait pas de life à part ce métier là qu'on apprenait en même temps. Mais c'est vrai que le fait d'être 3, encore une fois, le fait d'être en groupe et de se sentir soutenu, et aussi parce qu'on avait une bonne équipe derrière nous, c'est essentiel, parce que plein de fois on s'est demandé mais cet artiste qui a monté, qui est tout seul, qui est pas forcément bien entouré, ou en tout cas il a pas la famille qui pourrait l'entourer comme nous, on est plus, c'est un mode familial qu'on a. En fait, on se disait mais comment ils font tout seuls pour gérer tout ça en fait? Parce que nous, à la limite, si on est fatigué par exemple pendant une interview, on le sait, et du coup il y en a une qui va prendre le flambeau. Enfin, c'est des tours de passe-passe à chaque fois où on peut parfois s'appuyer sur l'énergie des autres ou en tout cas s'entendre sur le fait que bah là aujourd'hui ça va être difficile pour moi, bon bah ok vas-y je gère. Enfin ça pour le coup c'était vraiment je pense un atout d'être toutes les trois
complètement.
Et au même niveau vu qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe, voilà on se soutient également quoi.
Ouais ça c'est vraiment bien. Il y a des groupes à qui ça facilite les choses d'avoir un leader un machin. Nous je sais que enfin, je pense que s'il y en avait qu'une qui prenait vraiment la parole tout le temps, qui faisait tout, ça nous irait pas du tout et la cohésion serait pas du tout la même et surtout, on pourrait pas, comme l'a très bien dit Juliette, on pourrait pas se reposer, en fait. Et pouvoir se reposer les unes sur les autres, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, je sais que si c'est moi qui devais prendre toutes les interviews à 8h du matin au téléphone, DJ, il y aurait pas beaucoup d'interviews à 8h du matin au téléphone, quoi. Donc là, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui puissent le faire, c'est bien qu'on puisse, voilà, qu'on n'ait pas les mêmes rythmes de vie, qu'on n'ait pas les mêmes moments. On est toutes les trois au taquet, il y a des interviews, on est toutes les trois parfaitement éveillées, parfaitement là, et souvent c'est les meilleurs, mais c'est aussi, c'est comme en concert en fait, c'est aussi le journaliste qui donne l'impulsion du truc, mais quand il y en a une qui est épuisée ou qui a eu une journée difficile, une semaine difficile, en fait on n'a même pas besoin de se le dire aujourd'hui, on le sent dans nos attitudes, dans nos façons d'être, que ok, aujourd'hui, cette membre-là de LIJ, elle va être un peu éteinte, on prend le relais, ça va le faire. Ouais. On n'a pas besoin de se le demander, quoi.
C'est vrai qu'au début, ça allait très, très, très rapidement et on l'a pas géré de la même façon. Lucie, par exemple, l'a plutôt bien géré.
Oui, c'est vrai que ça.
Enfin, Boubi, en tout cas.
Ouais, vous, un peu moins.
Tu dis que toi, t'as bien kiffé ce moment, quoi. Après, j'avoue, moi, je l'ai mal géré, mais c'était plus un truc par rapport à l'image et par rapport au stress vraiment permanent et se dire que en fait on a fait un buzz sur des reprises sur internet alors qu'on vient du classique. Déjà on a commencé avec des a priori un peu sur les types de musique, sur le milieu, les radios peut-être qui étaient plus populaires contrairement aux radios indé. Enfin en fait on avait tout ça à apprendre, en fait tout ce qui est nous personnellement, comment on voit la musique et là où on veut aller, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut paraître, des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Et en même temps de devoir assurer ces niveaux, de devoir bien chanter alors qu'on est crevé, enfin énormément de choses, et en même temps tout ça c'est que du kiff, et ça faut surtout pas l'oublier, et c'est quand t'as plus de stress que de kiff, c'est là où ça devient un peu difficile, quoi.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre, et ce que maintenant on a fait, et moi pour ma part au début c'était très compliqué, mais maintenant on est, en regardant tout ce qu'on a fait, moi je me dis mais waouh, je sais pas comment on a fait en fait. C'est trop stylé.
Ouais, c'est vrai que parfois on regarde en arrière, on se dit mais non, on n'a pas fait tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Et après l'avantage qu'on a d'avoir d'avoir grandi, d'avoir connu tout ça, d'avoir eu des retours, c'est que si ça nous réarrivait aujourd'hui, je pense qu'on saurait l'appréhender vraiment 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 différemment, que ce soit au niveau de nos hygiènes de vie en fait, qu'au niveau de notre gestion du stress, de la gestion de notre image, parce qu'au début oui c'était un métier d'image, mais on n'avait pas conscience à quel point l'image c'était impactant en fait. On se rendait pas compte que par exemple si on se faisait une mimique, je sais pas, si Juliette et moi on se regardait parce qu'on pensait à la même chose et que c'était pas un truc cool, en fait ça se voit sur nos visages, c'est écrit, donc les gens le reprennent, les gens le voient, ils interprètent ça, etc. On n'avait pas du tout conscience de tout ça. Et comme on était tout le temps stressé et tout le temps fatigué, c'était impossible pour nous d'en avoir conscience, quoi. Juste on vivait. Aujourd'hui, je pense qu'on serait capable de voir presque que le côté positif de la chose, en fait, parce que c'est tellement positif en soi que, mais ça allait tellement vite qu'on se rendait pas compte de ça. Aujourd'hui, je pense qu'on s'en rendrait compte et qu'on serait vraiment prête à avoir le même rythme en étant beaucoup plus sereine.
Ouais. Et pour être plus sereine et pour l'hygiène de vie, vous avez des petites astuces que vous donneriez à quelqu'un qui d'un coup aurait beaucoup de dates et bon là c'est pas trop le contexte.
Bah
ouais là grave. Non mais c'est vrai que ce qui est important, je pense que c'est le cadre. Hein. Déjà faut s'imposer un petit cadre, même si c'est pas, enfin pas s'imposer. C'est vrai que quand on a beaucoup de dates et quand on part sur les routes, en fait il y a pas d'heure en fait. Les heures ça font, enfin c'est vraiment tu manges jamais à la même heure, tu chantes jamais à la même heure. Tu te douches jamais à la même heure, tu te réveilles jamais à la même heure. Et ça, c'est vrai qu'en fait, à force, ça peut être un peu fatigant. Donc, c'est cool de savoir ça et de se dire, OK, bah, peut-être qu'il faudrait que, mettre en tout cas, sur la tournée et inclure dans son emploi du temps des petits moments qui nous rappellent un peu notre maison, que ça peut être soit matériel, soit ça peut être dans les faits, je sais pas, moi, faire un truc à manger qu'on se fait tout le temps chez soi, ça peut être n'importe quoi, ou une petite routine de sport, ou n'importe quoi, un livre, quelque chose. Qui fait que ça te rattache aussi, je pense, à chez toi, c'est assez important, je pense, parce que tu peux vite perdre pied, en fait. Et du coup, en fait, t'es productif sans l'être. Enfin, tu sais, il y a un truc, quand tu sais pas trop où tu vas et qu'il y a aucun cadre, il y a un truc où, enfin, ça peut marcher quelques temps, mais au bout d'un an, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Finalement, tu fais un peu tout et rien. Je trouve.
Je suis d'accord, et ramener un
voilà,
petit
y a
peu
ça.
De
enfin, peut-être
qu'on a hors tournée ou hors grosse période de promo. Ouais, même si c'est une huile essentielle qui nous rappelle chez nous. Enfin, je sais pas, je sais que on a toutes les trois nos petits trucs à nous. Elisa, elle est beaucoup manga à fond. Lucie, c'est plus, sport et puis son petit déjeuner qu'elle aime bien. Et puis, ouais, moi, c'est plutôt dans les senteurs, dans les boissons, d'avoir un petit thé chaud. Enfin, des trucs simples, en fait, qui fait qu'on a quand même un repère d'une routine qu'on a d'habitude, un truc de quotidien, en fait, qu'on a l'habitude d'avoir, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
On va écouter un extrait de votre dernier summer, le summer 2020. Et je trouve ça génial d'avoir gardé ce rituel tous les ans avec un mash-up de chansons d'été.
Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, every time. Oh my, I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again.
Vous arrive-t-il d'être stressé ou avez-vous le trac avant une date importante ou avant de monter sur scène dans un gros festival?
Ouais, après il y a des tracks vraiment, il y a des tracks différents, mais moi perso je sais que ce qui me détend c'est de rigoler avant. Et vu que parfois quand je suis tendue vraiment j'ai pas envie de rigoler, faut que je trouve un truc pour que je rigole parce que sinon je sais que ça va être, je vais me concentrer sur mon stress et que ça va être horrible et que. Et en vrai, ouais, rigoler avant, c'est bien en général. Ou s'embrouiller une grosse fois. Et après, et après ça te détend tout. Et enfin, des émotions fortes comme ça. Et après, en fait, t'arrives sur scène et tu sais, tu prends ça à la légère, en fait. Enfin, pas non pas que ce soit, c'est pas un truc léger dans le sens ça n'a pas d'importance, mais on est là pour avoir de la joie, ressentir des bonnes énergies, et du coup, plus on va sur ce truc-là et mieux c'est. Et faut pas trop se prendre au sérieux, ce que j'ai parfois tendance à faire moi, mais j'essaye de justement d'avoir ce truc-là où ben, voilà quoi, se taper des fous rires avant, faire n'importe quoi. Parfois avec Elisa, juste avant, on a le quart d'heure chat, du coup on dépense toute notre énergie, et après on est là, ah ouais, faut monter sur scène là. Oh là là, la pute d'énergie.
On est fatigué. Lucie, elle arrive. Ah ouais, souvent en tournée, on fait ça. On a notre quart d'heure chat exactement, on devient folle. Et quand Lucie revient dans la loge et que ensuite notre régisseur va nous chercher, les meufs, c'est dans 10 minutes. Avec Juliette, on se regarde et on se dit, oh mais on a la flemme
final,
là,
après,
on est fatigué.
C'est cette
on a plus d'énergie.
Dire,
et en fait, c'est trop bien.
Ça, sans se prendre la tête. Et puis du moment que tu es concentré sur ce que tu fais et que tu bosses bien avant, en fait, c'est ça aussi. C'est que la scène et le spectacle vivant, c'est tellement une question d'énergie, comme on le disait au début, avec le public et tout, que plus t'es généreux, plus t'es dans l'amour et plus ça se transmet et mieux c'est de toute façon, quoi.
Ouais. Vraiment. Après, en plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le même stress toutes les trois, dans le sens où c'est rarement au même moment, quoi. Enfin, on n'est jamais toutes les trois stressées exactement pareil pour la même chose.
Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Dans les Sweet Days, on était toutes en transe. Hein.
Bah ouais, en transe. Mais par exemple, la Palooza, Juliette, elle, c'était un stress genre. Non, non, là, ok, je suis pas bien. Là, je suis super stressée, donc c'est pas le moment. Ok, ça va le faire. Toi, tu tournais dans tous les sens. Moi, j'étais stressée, mais enfin, je sais que perso, j'ai pas le même stress que vous. Moi, c'est du stress, mais
ça, c'est du stress de combat.
C'est du stress de... Vas-y, c'est quand ? Vas-y, il faut aller tout casser. C'est maintenant. Vous inquiétez même pas, on va tout niquer. Ah ouais, vraiment, parce que quand je vais sur scène et qu'il y a 40 000 personnes et que du coup c'est l'angoisse parce que les gens sont pas forcément là pour nous et qu'on joue à 15h45 et qu'il y a le fils de Will Smith qui joue en même temps et qu'on se dit non mais il y aura personne. Là moi je vais à la guerre vraiment et quand à la fin on nous dit les meufs il y avait 40 000 personnes, je suis là voilà c'est bon. Enfin vraiment, moi j'ai pas le même stress. Je leur dis souvent un truc, d'ailleurs j'ai retrouvé une vidéo où je dis ça avant, où je dis vous inquiétez même pas les meufs, rockstar, on est des rockstars, alors que je suis en train de paniquer au plus haut point, mais bon. Je ne leur dis pas. C'est vrai qu'on n'a pas le, on n'exprime pas pareil. C'est pas le même genre de stress. Moi, le stress de la scène, c'est de l'impatience, quoi. C'est beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais par contre, je vais pas être stressée avant de monter sur scène. Je vais avoir envie et être vraiment impatiente. Par contre, j'avoue que les 2 mois, 3 mois qui précèdent une grosse, grosse date, là, je suis stressée H24 et je suis un enfer à vivre pour Lucie et Juliette. Enfin, parfois, je n'ai pas le droit de prononcer certains mots parce que je le prononce tout le temps. Genre scène, scénographie, arrangement. Enfin, il y a des trucs que j'ai plus le droit de dire parce que sinon, pendant 3 mois, je suis en boucle dessus et c'est insupportable pour les autres.
C'est la fin de la première partie de l'épisode avec les L.I.J. La suite, mercredi prochain. On se quitte en écoutant Envie d'elle de l'album Pas peur. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
Je veux la voir, la regarder en face. Elle m'aimera plus longtemps que la vie. Et de grâce, j'irai même si on me l'interdit. Je la trouve belle, on me dit qu'elle est sombre. Si elle passe pas loin, je la devine. La désirer, c'est porter une bombe. Je n'ai pas peur de me tromper de fil. J'ai envie d'elle, j'ai envie d'elle. J'ai envie d'elle quand il fait noir. J'ai envie d'elle, j'ai envie d'elle. Seulement quand il fait noir, j'ai envie d'elle, j'ai envie d'elle, j'ai envie seulement quand il fait noir. Sois violente, j'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'apaise, j'ai envie qu'elle soit belle, envie qu'elle m'élève, j'ai envie qu'elle m'enlève, j'ai envie d'elle qu'elle s'en aille, mais j'ai envie d'elle quand j'ai mal, j'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me tente, envie qu'elle soit violente, j'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'apaise. J'ai
J'ai envie qu'elle soit belle, envie qu'elle m'élève, j'ai envie qu'elle m'enlève. J'ai envie d'elle qu'elle s'en aille, mais j'ai envie d'elle quand j'ai mal. J'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me tente, envie qu'elle soit violente. J'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'apaise.